おかしいおかしい。
Bonsoir, prochaine informée de la tribune de la presse ce vendredi 18 juin 2010, à savoir clôture mardi dernier de la session des masses dans les deux chambres du Parlement. C'est notre premier thème de ce soir et comme deuxième thème, en prévision des élections de 2011, l'Union pour la Nation, plateforme de l'opposition, a mis en place le week-end dernier un gouvernement qu'elle qualifie de gouvernement fantôme. Notre dernier thème va porter sur la suite des réactions sur l'assassinat de Floribert Chebeya. La dernière en date vient du Parlement européen. Nous resterons dans le même registre pour parler du programme des funérailles de Floribert Chebeya. Pour en parler, je reçois dans cette émission Luc Mikomo Kabongate. Il est éditeur du journal Nouveau Regard et directeur des infos à Congo et Télévision, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. Bélard Mouy, éditeur du magazine Écho des Grands Lacs, un magazine qui paraît à Kinshasa et distribué à l'est de la RDC. Mathieu Mpoukoudi, éditeur du journal Embouchure, paraissant à Matadi dans le Bas-Congo. Il est en ligne. Merci de nous suivre partout en RDC. Bienvenue à tous dans cette émission. Clôture de la session des masses au Parlement, mise en place par l'opposition d'un gouvernement qu'il qualifie de gouvernement fantôme, et toutes les questions sur le programme des funérailles de Floribert Chebeya sont là les grands thèmes qui ont retenu notre attention pour cette semaine. Jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux chinois pour voir comment la presse écrite a analysé et titré ces trois sujets. La revue de presse avec vous, Samuel Kachak.
Trois sujets ont occupé une place importante dans les journaux de Paris cette semaine à Kinshasa. Il s'agit de la clôture de la session des masses dans les deux chambres du Parlement, ainsi que de la mise en place d'un gouvernement fantôme de l'opposition et enfin des funérailles du directeur exécutif de la Voix des Sans-Voix, Floribert Chebeya. Satisfait du travail abattu par la chambre haute du Parlement, son président Léon Kingo-Wadondo a invité les sénateurs à poursuivre le même rythme de travail lors de la prochaine session parlementaire, signale l'Observateur. Pour le part, Évariste Beauchab reconnaît l'échec de cette session de mars qu'il attribue au manque de confiance et de l'esprit sectaire observé au sein de cette institution. Le potentiel constate que cette session de mars s'est clôturée sur un goût d'inachevé. Autre sujet abordé cette semaine, c'est la mise en place d'un gouvernement fantôme de l'opposition. Avec la bénédiction de Jean-Pierre Bemba, Clément Kanko enfonce un gouvernement fantôme au titre de la prospérité. Le potentiel de son côté pense que ce gouvernement fantôme n'est qu'une distraction. Terminons cette revue de la presse avec la tempête des tropiques qui s'intéresse aux obsèques de Floribert Chebeya. Selon ce journal, alors que les résultats de l'autopsie se font attendre, la famille décide d'enterrer Floribert Chebeya le 26 juin prochain. Malgré cela, Africa News reste encore prudent sur la date de l'inhumation de cet activiste des droits de l'homme.
Merci Samuel Kachak pour cette revue des presses. Bélard Mbouyé, vous êtes éditeur du magazine Écho des Grands Lacs. C'est un magazine qui paraît à Kinshasa et distribué à l'est du pays. Un petit mot sur la revue de presse que nous venons de suivre.
Bon, habituellement, la presse écrite est bien tenue de fournir l'information qui fait vraiment l'actualité parce que ce n'est pas une presse que les gens subissent. Il faut vraiment arriver à l'écouler auprès du public. Donc, ils ont bien fait le travail, même si j'ai quand même été étonné. Aucun grand journal de la place arrive à qualifier de distraction une initiative venue de l'opposition. Nous aurons certainement le temps d'en parler parce que c'est inscrit parmi les thèmes de ce jour. J'ai vraiment pas bien compris cette hargne à s'attaquer ici à l'opposition dans le fait du potentiel si c'est de lui qu'il s'agit.
Luc Mikomo, vous êtes éditeur du journal Nouveau Regard et directeur des infos à Congo Web Télévision. C'est une télévision privée hein, qui est née depuis Kinshasa. Votre mot sur cette revue de presse.
J'ai toujours été content du travail que abat la presse écrite ici en République démocratique du Congo. D'une manière générale, je trouve que les grands sujets sont révélus à la manchette des différents canards. Mais il y a un phénomène, hein, même dans notre agenda d'aujourd'hui, on n'en parle pas, les embouteillages monstrueux que nous sommes en train de vivre dans la ville. Et là, on dirait que c'est devenu notre donne quotidienne et ça ne fait plus l'actualité. Et pourtant, ces embouteillages ont des répercussions néfastes et sur la vie des entreprises et sur la vie de la population. Bref, l'impact sur notre existence en tant que population chinoise.
Et pour un temps, c'est l'embouteillage.
Oui, pour un temps, on comprend pourquoi ce phénomène est en train d'être vécu comme ça, mais tant qu'il influe sur notre vie quotidienne, je crois qu'il mériterait d'être regardé par la presse.
Mathieu Mpoukoudi, vous intervenez depuis Matadi, dans la province du Bas-Congo. Qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui dans cette province?
Oui, merci de l'occasion que vous m'accordez pour pouvoir intervenir sur Radio Kiti et apporter ma pierre d'édification. En fait, l'actualité au niveau de la balance reste marquée par les préparatifs du fond d'entraîneur. En fait, dans l'opinion, trouve que ça ne marche pas et que tout semble être bloqué, mais avec la présence du commissaire général au fond d'entraîneur, le général Denis Kalunemi, et accompagné de l'orateur du jour, le professeur Ndaïel, une conférence scientifique a été organisée hier à Matadi à propos du centenaire.
Merci Mathieu Mpoukoudi depuis Matadi dans le Bas-Congo. Premier thème de ce soir, les deux chambres du Parlement ont clôturé mardi dernier la session ordinaire du mois de mars. Une occasion pour les deux chambres de faire le bilan de cette session. Un bilan qualifié de maigre à la chambre basse par Évariste Bouchab, président de l'Assemblée nationale. Plus d'explications avec vous, Julien Yamouni.
Évariste Bouchab, président de l'Assemblée nationale, n'est pas allé par les dos de la cuillère pour qualifier la production législative de sa chambre de moisson maigre. C'est là au regard du nombre inférieur de projets de loi adoptés par l'Assemblée nationale par rapport au nombre de points inscrits au calendrier de la session de mars. En fait, cela se répercute non seulement sur la prochaine session qui est budgétaire, mais aussi pour le reste de la législature. Comme on le sait, l'on s'achemine vers la dernière ligne droite qui conduit aux échéances électorales prévu en 2011. Ce qui explique les propos fermes du président de l'Assemblée nationale dénonçant le sectarisme observé auprès des élus du peuple. Si quelques lois ont été adoptées par la Chambre basse, plusieurs arriérés ont été en revanche renvoyés à la session prochaine qui sera essentiellement consacrée à l'examen de la loi financière. L'absence de performance est due, d'après le président de l'Assemblée nationale, à plusieurs causes endogènes et exogènes, le manque de confiance et l'esprit les secteurs qui caractérisent les élus du peuple. Autant la question orale et débat adressé au Premier ministre sur la politique générale de son gouvernement par Jean-Lucien Boussa a plus intéressé aussi les députés que le vote des lois. À la Chambre haute du Parlement, Léon Congo Adondo s'est déclaré satisfait. La production a été tout de même réduisante. 8 projets de loi ont été adoptés, l'interpellation du Premier ministre sur le statut des villes ou communes conférées à certaines agglomérations dans le cadre du contrôle parlementaire. Il faut ajouter sur cette liste la question orale avec débat adressé au ministre de la Défense. Comme on peut bien le constater, beaucoup de points inscrits au calendrier ont été également renvoyés à la prochaine session. Conséquence, c'est l'accumulation des arriérés législatifs.
Merci Julien pour ce reportage. Luc Nicomo, vous avez sûrement suivi le déroulement des travaux dans les deux chambres du Parlement. Quel bilan vous dressez-vous en tant que journaliste et observateur de cette session, jugée déjà des maigres par Évariste Bouchard, président de l'Assemblée nationale?
Mais c'est un Parlement à géométrie variable. Vous avez suivi dans le reportage que dans la chambre basse, la moisson est maigre. Dans la chambre haute, c'est plutôt révisant. Pourquoi il y a un bilan négatif dans la chambre basse? Tout simplement, bonsoir, parce que nous avons une assemblée nationale lacunaire. Elle est la première assemblée nationale de la Troisième République. Il y a dans notre chambre basse des députés qui sont là, qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils ont été votés parce qu'on a donné l'occasion à chacun de battre campagne. D'autres ont été votés par des procédures irrégulières. Ce n'est pas à moi de rappeler, par exemple, l'épisode de certains députés qui se disent avoir été régulièrement votés, dont le mandat a été invalidé. Ils ont été devant des tribunaux internationaux qui leur ont donné raison. Et on voit dans le comportement des députés, ça je le dis parce que c'est une question qui touche à la vie du peuple congolais, mon peuple, le peuple de mon pays. Ce que dit le président de l'Assemblée nationale ici, c'est pas moi qui le lui fait dire. Il dit qu'il y a l'esprit sectariste. Ça veut dire quoi? Les gens se regroupent en groupe d'intérêt pour mener l'action politique de tout un pays par rapport à leurs intérêts exclusifs et égoïstes. Il y a des questions orales, des motions, des interpellations qui ont été initiées au niveau de la Chambre basse, rien que pour rançonner les ministres, les responsables du portefeuille de l'État. Est-ce que c'est comme ça qu'on va construire ce pays, madame, chère consoeur? Je crois que non. Moi, je crois que notre Parlement a deux vitesses. Vous voyez, entre l'Assemblée nationale et les Sénats, c'est comme le jour et la nuit. Hein. Et même lorsque l'on discute des questions sérieuses, vous sentez à l'Assemblée nationale qu'il y a beaucoup de députés. Il y en a d'ailleurs qui ne prennent même pas la parole. Il y en a qui viennent, qui parlent des histoires qui étonnent que ça puisse venir d'un député. Je crois que la population a été témoin de la médiocrité. D'une manière globale, je ne généralise pas visiblement de la plupart des députés et des problèmes qu'ils ont soulevés pendant cette mandature, des problèmes sentimentaux qui sont venus brouiller inutilement le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale. La population est témoin. Les élections de 2011 devront être des élections sanctions pour que le spectacle désolant de mauvais goût qu'ils nous ont offert ne puisse pas être réédité.
Bernard Mbouyi, au Sénat, le président du Sénat satisfait du travail abattu à l'Assemblée nationale, Evariste Wouchab, reconnaît l'échec de cette session des mars, qu'il attribue au manque de confiance et à l'esprit sectaire observé au sein de cette institution. Comment comprendre cette différence entre l'Assemblée nationale et le Sénat?
Bien, d'abord disons qu'au Sénat, nous avons affaire à des messieurs, si vous me permettez de passer cette expression-là. C'est des gens qui donnent l'impression d'avoir conscience de ce pourquoi ils ont été élus. C'est dommage qu'ils ne viennent même pas du suffrage universel. Ce sont les élus d'autres élus. Les députés ont été consacrés par le suffrage universel. Donc, ils ont plus de légitimité politique que les sénateurs. Mais le spectacle qu'on constate à l'Assemblée nationale me fait rejoindre totalement ce que Luc vient de dire tout à l'heure. Mais à propos de sectarisme, nous avons, au sein de notre Assemblée nationale, on a admis le principe que les députés pouvaient même constituer des groupes parlementaires en fonction de leur province d'origine. On ne peut pas construire une nation sur cette base-là. On doit se regrouper en fonction des idées uniquement et non pas en fonction des origines. Et par extension, nous avons même un groupe parlementaire, le groupe parlementaire du Bas-Congo, qui s'appelle Groupe parlementaire Congo. Donc, lui n'a même pas pris le nom de la province, il a pris le nom d'une ethnie. C'est vrai qu'au Bas-Congo, c'est une province monoethnique, mais il n'est pas dit que, sur le principe, tous ceux qui seront élus au Bas-Congo seront forcément des Bas-Congo. Par exemple, si on regarde au niveau provincial, il y a des députés au Bas-Congo qui sont du Bandundu et du Katanga. Donc, vous ne pouvez pas clôturer carrément, dire non, c'est un groupe parlementaire Congo. Donc demain, nous aurons aussi un groupe parlementaire Bashi, un groupe parlementaire Balouba. Et comment vous ne voulez pas qu'il n'y ait pas de sectarisme sur ce point-là? Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, même au Sénat, j'ai noté quand même que le président du Sénat a dit qu'on n'a pas pu plancher sur les rapports de vacances parlementaires pour la bonne et simple raison qu'il n'y a eu aucun rapport de vacances parlementaires. Ça, parce que c'est aussi une faiblesse. Mm-hmm. Et la dernière chose que je voudrais même dire, c'est le plaidoyer qu'a fait le président Léon Kengouadondo pour un éventuel rééquilibrage des pouvoirs au sein du Parlement. Parce que qu'est-ce qu'on constate? Chaque fois qu'une loi est votée à l'Assemblée nationale et qu'elle est améliorée, je dis bien améliorée, pas que chaque fois, c'est le Sénat qui apporte une touche beaucoup plus qualitative à toutes ces propositions de loi qui viennent de l'Assemblée du gouvernement. Eh bien, l'Assemblée nationale campe sur ses positions et c'est son point de vue qui gagne. On l'a constaté avec le cas de la CENI. Donc l'Assemblée nationale ne veut même pas qu'il y ait une assemblée pour contrôler l'exécutif qui est le bureau de la CENI. Il veut que nous ayons la CENI sur qui soit un facsimilé de la CI, donc un bureau exécutif, sans aucun pouvoir qui puisse le contrôler. Et là, c'est le point de vue de l'Assemblée nationale encore qui a triomphé. Alors, on se pose des questions. À quoi sert le Sénat dans ces conditions, alors que visiblement, c'est l'Assemblée la plus qualitative au sein de notre Parlement.
Mathieu Mpoukoudi, vous êtes au Bas-Congo, vous avez sûrement suivi aussi les déroulements des travaux au Parlement. Quel bilan vous dressez de cette session de mars?
En fait, je ne m'attire pas de dresser un bilan, mais je voudrais faire des observations par rapport à même à la composition de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, beaucoup de gens ont été massivement votés, mais quelques ont été élus, d'autant plus que la loi électorale a été bien claire, c'est-à-dire que c'était un scrutin sur liste avec le plus en reste. Donc, on pouvait être massivement élu, qu'est-ce que je dis, voté, mais on n'a pas été élu par rapport à la loi électorale. En fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, si vous voulez dire, a eu des problèmes quant à sa production législative. Tout dépend également de la qualité de députés qui font partie de cette Assemblée. La deuxième observation, c'est celle qui a trait même à la productivité. En fait, du temps de Vital Kamerhe, on n'a entré jamais plein d'une faible productivité législative au niveau de l'Assemblée nationale. Curieusement, aujourd'hui, on s'en plaint. Donc, est-ce qu'il y a une démotivation, il y a un relâchement dans les chefs de députés? Est-ce que c'est une sanction qu'on voudrait infliger à Évariste Bouchard? Si ça, nous ne comprenons pas, mais bon, toutes les pistes sont à créer de manière à ce que nous ayons beaucoup plus de probabilité dans les éléments de réponse, au lieu de dire un sectarisme, ça a toujours été le cas. Mais en fait, est-ce qu'ils ont encore confiance en ce bureau? Est-ce qu'ils ont encore confiance aux membres qui gèrent le bureau de l'Assemblée nationale? Donc voilà un peu, à cela doit s'ajouter également la compétence de chacun des membres qui siègent à l'Assemblée nationale.
Merci Mathieu. Bernard Mbouyi, à moins d'une année de la fin de cette législature, certains observateurs pensent que c'est vraiment un échec total, surtout à l'Assemblée nationale.
Oui, c'est un échec total. Nous devons dire que même dans l'opinion, tout le monde constate que cet échec est d'autant plus ravivé qu'il y a eu le changement du bureau au niveau de l'Assemblée nationale. À moins d'être de mauvais espoirs caractérisés, on ne peut pas ne pas reconnaître aujourd'hui que le bureau de l'Assemblée nationale, présidé naguère par Vital Kamerhe, a fait preuve d'une efficacité remarquable quand il présidait au destiné de cette chambre par rapport au bureau qui lui a succédé. Aujourd'hui, on peut constater que même le président de l'Assemblée nationale peut être bousculé, humilié par des badauds militants d'un parti politique. Il n'a même pas le courage de les faire sortir de l'Assemblée. Il sent qu'il vocifère des menaces contre les élus du peuple au sein même de l'enceinte de l'hémicycle. Et le président de l'Assemblée nationale n'a même pas la force morale de pouvoir ordonner à la police de les mettre dehors. Ça n'a jamais vu sous Vital Kamerhe ce genre de choses. Donc c'est devenu comme une sorte de cirque et où le sectarisme d'ailleurs est plus fort avec Évariste Bouchard lui-même, du reste d'ailleurs. Je vous rappellerai, lorsque Vital Kamerhe présidait l'Assemblée nationale, c'était un homme de consensus, bien qu'issu de la majorité. Je vous rappellerai l'épisode où il était à Goma en train de co-diriger avec Malumalu la conférence sur la paix dans les deux Kivu. Le Tundula, qui l'avait succédé à l'Assemblée nationale, avait irrité l'opposition qui était sortie et décidé de ne plus continuer de se présenter à l'Assemblée nationale. Kamerhe est venu en trombe, il les a convaincus à pouvoir reprendre leur place au sein de l'Assemblée. Mais aujourd'hui avec Bouchard, si l'opposition se fâche, elle sort, il s'en fout éperdument, il continue la session avec ceux qui sont présents de la majorité. C'est ça justement l'esprit sectariste. Ce n'est pas l'esprit unificateur, ça.
Luc, Nico, vous voulez ajouter quelque chose? Mais je voudrais d'abord vous poser une question. Est-ce que l'Assemblée nationale a une chance de rattraper son retard à la prochaine session?
On dit qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Moi, je crois que sincèrement, il faut que l'on fasse très attention lorsque on évalue des personnes humaines. Le style, ceux qui ont fait les lettres savent que le style est individuel. Le style, c'est la personne. Le charisme, chacun en dispose selon sa dose personnelle et selon la manière dont la nature l'a fait. D'accord. Mais bon, moi, je dis, chacun a sa touche. Vital Kamerhe, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, il avait sa touche par rapport à son charisme, par rapport à sa culture, par rapport à son histoire, par rapport à son origine, etc., etc. D'accord. Évariste Bouchard amène une approche par rapport à son éducation, à son instruction, et tout ça, il faut prendre en compte. Il ne faudrait pas que l'Assemblée nationale dirigée par Vital Kamerhe ressemblât totalement à l'Assemblée nationale dirigée par Évariste Bochab. Ce serait d'ailleurs un non-sens. Il est bien vrai que le souhait serait que l'allure imprégnée par l'un puisse passer comme en flambeau en l'autre. Mais ce qu'il y a là, c'est un problème de personne. Parce que, bon, on dirait qu'aujourd'hui, il y a une faible production législative que le président de l'Assemblée lui-même reconnaît. À l'époque de Kamerhe, il y avait aussi quelques problèmes, notamment les problèmes sentimentaux qui sont venus brouiller complètement et ternir véritablement l'image de l'Assemblée nationale. Mais les deux, ce sont deux grands présidents de notre Assemblée nationale, chacun, bien sûr, avec sa particularité, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le style est individuel. Mais ce qu'il faut dénoncer, à partir de la premier bureau, jusque maintenant, notre chambre basse viole la Constitution. Je crois que c'est là le grand problème qu'il y a, notamment la question de la nationalité. La question des députés qu'on a pris la main dans le sac, on a violé la Constitution. Donc il y a autant de problèmes qu'il faut considérer de par leur nature intrinsèque, dans leur substance, plutôt que de par les apparences formelles. Vous voyez, le problème c'est que est-ce que notre Assemblée nationale, depuis 1960, date à laquelle elle a été mise sur pied, c'était, si ma mémoire est bonne, le 17 juin 1960, et cette Assemblée devenait ainsi la toute première institution nationale à être mise en place après, avant même la proclamation de l'indépendance. Donc il y a un problème fondamental pour notre pays si l'Assemblée nationale n'arrive pas à rassurer la population dans la violation systématique de la Constitution qui est le fruit de la même Assemblée nationale.
Merci, Luc. Mathieu Poukoudi, tous les incidents observés à l'Assemblée nationale ont eu des répercussions sur le Sénat quant à l'adoption de certaines lois qui devaient être traitées dans la commission paritaire. C'est quand même un problème.
Tout à fait. Vous conviendrez avec moi que certaines lois qui ont été adoptées au niveau de l'Assemblée nationale et soumis au niveau du Sénat pour une seconde lecture, mais bon, ce sont des lois qui ont peut-être été améliorées par le Sénat, mais en cas de divergence de vue, c'est l'attitude ou le point de vue de l'Assemblée nationale qui est prépondérant. À ce niveau-là, il se pose un problème. C'est comme l'a dit Luc. Oui, donc même si l'Assemblée nationale tape à côté, pour autant que du corps des textes existants, l'Assemblée nationale a une prépondérance. C'est un peu bizarre. Donc le président du Sénat a raison de pouvoir demander à ce que l'on puisse rééquilibrer de force de manière à ce que qu'il n'y ait pas une structure qui soit au-dessus d'une autre. Et ça aussi, c'est un problème. Et le deuxième problème, je parlais du problème de la loi électorale. En fait, beaucoup ont été massivement votés, mais très peu ont été élus. Donc la loi électorale ne doit pas, favoriser les uns au détriment des autres. Nous savons qu'il y a des députés qui ont été élus avec 800 voix, 2000 voix. Alors qu'il y a des gens qui ont été votés avec 10 000, 15 000 voix, mais ils n'ont jamais été élus comme députés. Donc voilà un peu. C'est vrai, c'est un problème de texte, c'est aussi un problème de la loi électorale pour pouvoir équilibrer les choses.
En prévision des élections de 2011, l'Union pour la Nation, plateforme de l'opposition, a mis en place le week-end dernier un gouvernement qu'elle qualifie de gouvernement fantôme. C'est notre deuxième terme de ce soir à une année des élections générales en RDC. L'opposition politique s'organise. L'Union pour la Nation, plateforme de l'opposition, a mis en place le week-end dernier un gouvernement qu'elle qualifie de gouvernement fantôme selon son coordonnateur.
Cette structure sert d'une force d'affirmance politique en RDC en prélude aux prochaines élections pour les députés nationaux. Clément Kankou, coordonnateur de l'Union pour la Nation, l'opposition ne veut pas seulement être une opposition qui critique dans un coin, mais une opposition constructive pour le bien-être de la population. On écoute Clément Kankou au micro de Jacques-Yves Moluma.
Nous voulons montrer à la population que nous sommes une alternance crédible, sérieuse. Nous avons appelé ce gouvernement gouvernement fantôme. C'est-à-dire que nous ne posons pas des actes d'État, mais nous sommes un repère. Pour ne pas dire une lampe de noir. Qu'est-ce que nous allons faire en pratique? Nous allons critiquer et nous allons dire à la population ce que nous, on aurait dû faire si on était aux affaires. Cela va rassurer la population pour qu'en 2011, que la population sache que ceux qui vont venir, ceux qui vont remplacer ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, ne vont pas tomber comme un cheveu dans la soupe. Je crois que de temps en temps, on critique l'opposition en termes de manque de propositions, mais nous voulons prouver à la face du monde que l'opposition que nous faisons est une opposition à la fois républicaine, constructive et surtout intelligente.
Bellarmouille, comment vous analysez cette démarche de l'opposition?
Oui, j'analyse cette démarche d'opposition en disant d'abord ma sidération au regard des réactions que cette initiative a suscitées dans certains journaux de la place, dont l'un est allé jusqu'à qualifier l'opposition de rébellion carrément. Je sais que la paranoïa de la complotite, de la balkanisation du Congo à tout moment, inhibe un certain organe de presse connu de Kinshasa, mais de là à imaginer qu'une structure de politique qui s'organise, cela relève de la rébellion, c'est totalement aberrant. À mon avis, je pense que l'opposition, d'abord dans chaque pays du monde, c'est une force qui il est constitué de tous les partis politiques qui n'appartiennent pas à la majorité parlementaire et qui s'y opposent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette opposition-là a plusieurs attributs. D'abord, c'est un contre-pouvoir pour que ceux qui gèrent la nation ne puissent pas tout se permettre. La deuxième chose, c'est que cette opposition représente une possibilité d'alternance. Et enfin, ils permettent également de renouveler la classe politique, le personnel politique dirigeant du pays. Alors, c'est un rôle vraiment essentiel en démocratie, au point que certains pays lui organisent carrément un statut. C'est le cas de la Grande-Bretagne, où le chef de l'opposition est qualifié de chef de l'opposition loyale à Sa Majesté. La Mauritanie a suivi, et nous sommes, je crois, le deuxième pays en Afrique qui en a décidé ainsi. Malheureusement, on n'a pas encore pu trouver un chef d'opposition. Le mandat touche vraiment à sa fin. Je trouve que c'est quelque chose de tout à fait normal.
Pourquoi à moins d'une année des échéances prochaines?
On ne peut pas, c'est tout à fait leur droit de faire ce qu'ils veulent au moment où ils veulent bien le faire. Vous voyez, dans tous les partis politiques, vous savez, à l'UDPS, ils ont décidé d'appeler leurs militants qui se retrouvent devant les kiosques des journaux, les appeler depuis les années Mobutu, Parlement debout. Ce n'est pas un dédoublement de l'institution parlementaire nationale, non. C'est comme ça qu'ils ont décidé d'appeler ça. Alors, si une plateforme souhaite appeler son organe exécutif à lui, gouvernement fantôme, c'est son appellation. On peut se tenir quand même de cette appellation. Pourquoi recourir à un mot aussi morbide que fantôme? Bien, enfin, c'est leur droit, c'est leur plein droit de pouvoir s'appeler ainsi fantôme. Ils pourraient s'appeler gouvernement monstre ou zombie, c'est sur leur droit plein et entier.
Mais comment votre point de vue par rapport à ce gouvernement dit fantôme?
D'abord, j'invite mon confrère Bellard, avec qui je me retrouve très souvent ici, de ne pas se laisser éberlué par la réaction ou le jugement d'autres organes de presse. Si on est à démocratie, Bellard, il faut accepter le pluralisme d'opinion. Il faut accepter la liberté d'expression. Il faut être tolérant. Donc, ceux qui ont considéré que c'était une rébellion, c'est juste leur point de vue.
Comme le potentiel qui a titré ce gouvernement, ça ne semble qu'une distraction.
Ben oui, moi je dis, mais c'est le droit le plus légitime au journal de qualifier comme il veut. D'ailleurs, je constate.
Je vais vraiment m'interrompre là. Vous savez, une structure de l'opposition nous organise et qu'on dit qu'ils font de la rébellion. Qu'est-ce qu'une rébellion sous-entend? Ce sont des gens qui doivent être condamnés pour haute trahison
pendu haut et court pour jusqu'à ce que les mots s'en suivent. Vous pensez que nous, la presse, nous pouvons tolérer ça, ne pas le dénoncer?
Vous croyez que ce journal-là, après que le journal lorsque le journal a fait que cela est arrivé comme tel, mais c'est leur angle d'approche de l'actualité. Mais ce qui est important, Bélard, moi je pense très sincèrement que nos amis de l'opposition semblent se réveiller, mais je qualifie ce réveil de tardif. Autant que tu t'étonnes du qualificatif fantôme qu'ils donnent à leur gouvernement, moi je crains fort que ce gouvernement passe d'un gouvernement fantôme à un gouvernement fantasmagorique. Ça risque d'être plus comme de la distraction, comme de la comédie. Nous n'avons pas besoin de la comédie ici. Je fais confiance à Clément Cancou. Je crois que quand il plonge le qualificatif fantôme, ça veut dire que c'est un gouvernement qui va faire peur et que cette peur-là devra faire changer les choses.
Pour Clément Cancou, ce sera un gouvernement qui va contrôler le gouvernement en place pour essayer de les pousser à bien faire les choses.
Oui, je crois que le fantôme ne commence pas à bouffer des fils de la République, hein, parce que le fantôme a cela aussi comme qualité. Mais je comprends ça dans un contexte de pouvoir et contre-pouvoir. Hein, je comprends. Donc, s'ils disent que nous sommes des fantômes, ce sont des signes qu'ils envoient à l'endroit du gouvernement. Ils disent, faites attention, si vous badinez, le fantôme va s'occuper de vous.
Merci Luc Nicomo. Mathieu Mpoukoudi, vous, comment vous analysez la mise en place de ce gouvernement fantôme?
Oui, je voudrais d'abord dire que l'opposition a ce droit-là de s'organiser. Mais en fait, il ne faut pas que cette organisation nous amène sur un terrain de digression. Parce qu'en fait, ce qui devrait être pour l'opposition, c'est la désignation d'un porte-parole de l'opposition qui devrait, selon le texte qui a été voté à l'Assemblée nationale, le statut de ministre d'État ou de vice-premier ministre. Mais donc, aujourd'hui, quand on nous parle d'un gouvernement fantôme, ne trouvez-vous pas que ce réveil auquel Luc fait allusion n'est pas réellement un réveil? Il aurait fallu que l'opposition se batte pour la désignation d'un porte-parole de l'opposition et organiser l'opposition dans ce sens-là, de manière à aborder 2011 en toute sérénité, lutter pour à ce que le porte-parole de l'opposition soit désigné, qu'il ait de moyens nécessaires, parce qu'en fait c'est donné dans la loi. Alors, pourquoi ne pas faire ce qui est autorisé par la loi pour créer des histoires qui vont parfois amener la confusion, parfois l'incompréhension, c'est vrai. Mais la presse qui est titrée, et c'est une rébellion, elle est allée aussi sur un noir. Vous comprenez? Comme l'a dit Bélard, chez nous, vous savez, nous sommes dans un pays sous-développé. Quand vous parlez d'une rébellion, en tout cas, on va vous écraser, on va vous mater. Donc la mort n'est pas loin de vous.
Mais Mbouy, est-ce que ça ne sera pas des belles paroles sans être concrétisées, un peu comme l'histoire du porte-parole de l'opposition?
Bien, nul ne peut présager de l'avenir, hein, Madame Kelly. Ça dépendra de la détermination de ceux qui animent cette structure. Eh bien, pour ce qui est du porte-parole opposition, il faut dire que ce n'est pas de la faute opposition s'il n'y a pas encore de porte-parole. C'est de la volonté ferme des deux présidents des deux bureaux du Parlement qui n'ont jamais pu convoquer une assemblée de l'opposition.
Mais l'opposition n'arrive pas non plus à s'organiser par rapport à la désignation du porte-parole.
Ils ne sont pas obligés de s'organiser pour cela. Parce que s'il n'y a pas entente, on les convoque et ils votent. Ceux qui sont majoritaires là-dedans sont connus. Pourquoi on ne va pas convoquer? Mais ce que j'aimerais quand même ajouter, suivant Luc Nicomo qui avait déjà lancé l'idée, c'est qu'il ne suffit pas de s'organiser en gouvernement fantôme ou zombie, et il faut pouvoir aller à la conquête du pays. Lors des élections de 2006, l'opposition a fait un score très élogieux dans l'ouest du pays. À l'est, elle a été totalement écrasée. Et aujourd'hui, si vous allez dans l'est du pays, même si l'ANP pouvait baisser dans le cœur des gens, mais l'opposition est inexistante. Alors, l'ANP risque de gagner encore, faute d'adversaires. Ils vont dire qu'on a triché.
Et comment? Très rapidement. Je vais d'abord apaiser notre confrère Mathieu. C'est-à-dire, Mathieu, le sens d'un mot, hein, ça fait qu'on soit dans le contexte où il est utilisé. Moi, je dis, il faut laisser la liberté à chaque presse d'exprimer sa vision avec les mots de son choix. Donc, il y a pas match là, de deux. Mais là, il faut que l'opposition s'organise. Si les deux présidents de chambre basse et haute de l'Assemblée nationale n'ont pas convoqué cette réunion et qu'ils ont dormi paisiblement, c'est qu'ils n'ont pas suivi une pression de la part de ceux qui veulent qu'il y ait une organisation.
C'est le sens. Mais là, c'est fini, ce sont les
deux. Le MLC ont écrit aux deux présidents pour qu'ils convoquent une assemblée afin d'abord d'adopter le débat d'ordre, ensuite de voter. Ils n'ont jamais reçu de réponse.
Alors, merci pour la précision. Rapidement.
Et je constate malheureusement, Béla, que la pression n'était pas suffisante. Si elle était suffisante, elle ferait changer les choses. Donc, Kabila sera seul devant rien et il passe.
Terminons cette émission par les réactions qui continuent à tomber dans l'affaire Floribert Chebeya. La dernière en date vient du Parlement européen. Dans une résolution adoptée hier jeudi, les eurodéputés condamnent avec la plus grande force le meurtre du président de l'ONG de droits de l'homme, la Voix de son voix. Les députés européens exigent que les auteurs de sa mort soient punis. Les grandes lignes de cette résolution du Parlement européen avec José Richard Minga.
La résolution adoptée en plénière exige la mise sur pied d'une commission d'enquête indépendante, crédible, sérieuse et transparente pour faire toute la lumière sur cette affaire. Elle exige aussi que les responsables soient identifiés, traduits en justice et punis. Les députés européens ont exprimé leur profonde inquiétude quant à ce qu'ils qualifient de dégradation générale de la situation des défenseurs de droits de l'homme en RDC. Ils stigmatisent l'oppression qui frappe militants de droits humains, journalistes et opposants politiques, dont beaucoup ont été tués ces 5 dernières années dans des conditions que les eurodéputés jugent suspectes. La députée écologiste belge, Isabelle Durand, s'est interrogé pour quelle raison Chebeya a-t-il été tué ? Par qui a-t-il été tué ? Les sources diplomatiques indiquent que Isabelle Durand sera à Kinshasa le 30 juin pour le 50e anniversaire de la RDC. Elle a participé au débat qui a abouti à la résolution d'hier au Parlement européen.
Mathieu Mpoukoudi, vous intervenez depuis Matadi dans la province du Bas-Congo. Vous êtes éditeur du journal L'Embouchure. Les réactions par rapport à l'assassinat de Chebeya n'arrêtent pas de tomber. Comment vous réagissez à cette dernière réaction du Parlement européen?
Oui, vous savez, c'est 20 ans après, ce genre de crimes sont organisés. Ce genre de scénario macabre se réalise toujours dans notre pays. C'est inadmissible. Et moi, je trouve légitime la réaction de l'Union européenne. Et je suis moi-même sidéré parce qu'en fait, dans ce pays, on a besoin de vendeurs de cacahuètes, de communes qui vont compter le nombre des sacs de ciment, des sacs avariés, des sacs en bon état, et ainsi de suite. Et on n'a pas besoin de journalistes, on n'a pas besoin de défenseurs des droits de l'homme, on n'a pas besoin de prisons. Voilà un peu le visage que j'ai de ce pays. Et c'est quand même bizarre.
Merci Mathieu Mpoukoudi, Luc Nikomo Kabongatre, éditeur du journal Nouveau Regard et directeur des infos à Congo Télévision. Vous allez réagir hein, par rapport à cette déclaration du Parlement européen, mais aussi par rapport aux funérailles, aux obsèques de Floribert Chebeya, selon la tempête de tropique. Alors que le résultat de l'autopsie se fait attendre, la famille décide d'enterrer Floribert Chebeya. Le 26 juin, cette communication, selon le quotidien, annule le programme annoncé par quelques ONG de droits de l'homme et partis politiques. Comment vous analysez tout ça?
Par rapport d'abord à la réaction de du député belge, je suis étonné là de la manière dont, non pas seulement la Belgique, mais le monde entier a réagi à la mort de Floribert Chebeya. Un étonnement positif, mais aussi interrogateur. Moi, je crois très sincèrement que les jours qui viennent vont nous révéler beaucoup de choses autour de la mort de Chebeya. Donc, il est bien vrai que la communauté internationale réagit, et il est bien vrai que les départements d'État américains réagissent, donc toute la communauté internationale puisse réagir. Mais je dis qu'elle doit adopter la même attitude lorsque les femmes meurent dans l'Est de la République démocratique du Congo, au centre, à l'ouest ou encore au nord, parce que la vie a une seule valeur, c'est sa sacralité. Et que l'attitude qu'ils affichent avec la mort de Floribert Chebeya, qui est une attitude très positive, mais qu'elle reste maintenue chaque fois qu'un seul Congolais mourra dans ce pays. D'accord ? Il ne faudrait pas qu'il nous pousse à croire que Tshebeya aura été un Congolais plus Congolais ou humainement plus valeureux que les autres. Attention, je voudrais être clair. La vie de notre compatriote Tshebeya, elle était sacrée, il était important pour nous, Tshebeya, il était important pour notre pays, mais il ne faudrait pas que la communauté internationale commence de par son attitude à nous faire gratter l'esprit. Mais comment maintenant ils agissent de telle manière alors qu'on a vécu des cas pareils et de nombreux cas de disparitions tragiques? La communauté internationale n'a pas affiché la même attitude. Ça, je le dis fermement. Alors, concernant
les obsèques, les dates, c'était d'abord le 30 juin, maintenant la famille décide de l'enterrer.
Concernant les obsèques, je dis, moi je dis, nous sommes en Afrique, la sociologie nous apprend que l'enfant est avant tout l'enfant de sa famille. Et je crois aussi que la Belgique doit avoir joué très très fort, doit avoir exercé des pressions très fortes, que ce soit du côté du gouvernement ou des activistes des droits de l'homme, pour que le roi qui doit venir ne trouve pas un terrain nuageux, un terrain conflictuel. Il faudrait que les choses soient en ordre avant que le roi des Belges ne puisse venir en République démocratique du Congo. Donc, maintenant, reste à savoir, est-ce que les organismes de défense des droits de l'homme iront dans le sens de la position de la famille, parce que c'est quand même un des leurs, est-ce que, finalement, ils vont initier d'autres activités, d'autres actions pour se faire entendre, ce n'est pas exclu.
Merci Luc Bellard-Mouillé, vous êtes éditeur du magazine Écho des Grands Lacs. Votre réaction par rapport à la déclaration des parlementaires européens et par rapport à toute cette question autour de la date de l'enterrement de Floribert Tshebeya?
Oui, ma réaction, c'est d'abord de dire à Luc Nicomo que certes que la vie humaine a la même importance, hein, qu'on s'agisse de X ou de Y, mais qu'il existe des personnes qui sont des détonateurs de certaines situations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'assassinats qui sont restés non élucidés jusqu'à ce jour. Bien, il y a un moment donné où les gens disent « Stop, c'est fini, ça doit s'arrêter cette affaire-là ». Et pourquoi ça doit être Tshebeya? Parce que Tshebeya n'est pas n'importe qui. Il s'agit justement de la voix de Sambo, en fait. Il incarnait le combat, il incarnait l'appellation de son organisation. Tshebeya, c'était le défenseur des pauvres. Et lorsque Tshebeya est assassiné, je vous dis, vous ne savez pas combien de millions de personnes vont se retrouver sans défenseur. Lorsque le jour Tshebeya est mort, faute d'électricité, je n'avais pas suivi les formations à la radio. J'ai vu ça sur le phare, c'est dans un taxi. Et quand j'ai crié, mes compagnons de voyage m'ont posé la question, je leur ai expliqué. Derrière moi, un garçon s'est mis à sangloter. Il habite Kingasani, il est originaire du Bandundu. Il a dit, mais c'est grâce à ce Tshebeya que mon père a la vie sauve aujourd'hui. Tshebeya est de Bukavu, il ne connaissait pas cette famille, ni d'Adam, ni d'Ève, c'est ça. Mais ce qui est fondamental, lui, tu dois patienter un peu.
Allez-y, Bénard, rapidement.
Après autant d'années depuis le lancement du processus démocratique dans ce pays, nous sommes arrivés au moment où nous devons nous poser la question fondamentale. Sommes-nous un état de droit ou faisons-nous des efforts pour le devenir? Il y a des choses que nous avons dépassées sous l'ère Mobutu, mais nous sommes en train de reculer sur ces mêmes choses aujourd'hui. Sous Mobutu, on ne réprimait plus les manifestations politiques, et sous Mobutu, on n'arrêtait plus des assassinats, ni des journalistes, ni des hommes politiques. Mais aujourd'hui, constatons-le, depuis que ce régime a été issu des élections, il n'y a eu aucune manifestation, ni de l'UDP, ni du MSR qui ont été organisées. Tout ont été réprimés. Il y a des manifestations que du PPRD, du MSR et du PALU. Il y a plein de journalistes et des gens des droits de l'homme qui sont assassinés chaque jour qui passe. C'est des choses qui n'arrivent plus sous Mobutu. Nous devons dire, arrêtons cette affaire-là. Franchement, nous devons pouvoir faire en sorte que nous puissions mériter notre appellation République démocratique du Congo. Car la démocratie, ce n'est pas seulement le respect de la majorité, mais c'est aussi et surtout la protection de la minorité.
Merci Bélard, en un mot.
Non, Bélard, je voudrais simplement dire, en craignant que tu m'aies mal compris, je dis ceci, la vie est sacrée pour tout le monde. Il n'y a pas un homme qui soit plus homme qu'un autre.
je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je demande que cette attitude, justement, pour qu'on en arrive plus à des répétitions de cas comme ça, que n'importe quel assassinat puisse provoquer des réactions comme ça. Je crois que le gouvernement va comprendre. Mais il faut s'asseoir deux fois de mesure.
Merci, Luc, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Alain Roux, Samuel, Katia, sous la supervision de Télé, Kip et Lamondo qui ont contribué à la préparation de cette émission. Merci à Sylvain Matundu qui est à la technique, au micro, qui est l'écouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Je vous souhaite de passer une bonne soirée en compagnie des programmes de Radio Okapi. Okapi, Okapi.